plus que ce soit associé à Sciences Po Lyon et à cette chaire, parce que je menais une partie de mes recherches à Lyon et notamment avec la métropole du Grand Lyon. Donc, ça parlera en tout cas aux locaux qui sont présents, j'espère. Mais j'espère aussi que ça parlera à tous les autres. Donc, moi, je suis chercheur en sciences politiques. Et en fait, je travaille depuis quelques années maintenant sur la question de la recomposition de la gouvernance urbaine avec le numérique, en essayant d'entrer dans cette question sous l'angle de laquelle des données, donc qui sont un peu la matière première de cette ville numérique, matière première aussi quand on parle d'intelligence artificielle associée à la ville, et matière première qui fait l'objet d'un certain nombre d'enjeux politiques sur lesquels je voudrais revenir un peu aujourd'hui, qui sont au cœur de mes travaux. Il me semble que de manière assez heuristique, cette approche par les données peut permettre d'identifier quelques recompositions des relations de pouvoir dans le gouvernement de la ville, recomposition et reconfiguration, notamment entre acteurs publics, privés et sociétés civiles. Donc je ne traite pas directement l'intelligence artificielle, même si on pourra en discuter, certains de mes terrains peuvent être associés à l'intelligence artificielle, notamment dans la mobilité. Alors je remets la présentation, là je pense que vous la voyez, donc oui. Je ne vous vois plus quand je mets la présentation, mais je...
On vous voit, on lit très bien votre présentation.
Parfait. Eh bien, je voulais revenir un peu donc, sur une introduction un peu générale, moi, sur mon approche, sur ma problématisation de ces recompositions de la gouvernance urbaine par la donnée, en présentant, en vous introduisant déjà par deux citations. Une citation, qui a maintenant 3 ans, de la part de Jean-Louis Missika, hein, qui était l'adjoint d'Anne Hidalgo, notamment sur les questions numériques, et qui, en fait, pointait en novembre 2017 qu'on serait entré dans une nouvelle phase autour de la question de la ville numérique, une phase plus politique, notamment autour des questions des données, et qu'on allait rentrer dans le combat politique de la data. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est qu'autour de cette citation, il pointait en fait l'enjeu, notamment pour les municipalités, d'acquérir un certain nombre de données qui étaient aux mains des grandes plateformes pour pouvoir les réguler. Et donc, à mon sens, elle illustre bien une des premiers enjeux un peu courants de recomposition de pouvoir au travers de la donnée, celle de, en gros, les acteurs qui ont de la donnée ont du pouvoir sur la ville. Je voulais aussi présenter une deuxième citation, donc là, qui n'est pas du tout trait à la ville, pas directement à la data, mais plutôt à la statistique, qui est celle d'Alain Desrosières, qui est un sociologue français et non-sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question de la statistique publique. Et je vous présente cette citation parce qu'en fait, elle, à mon sens, elle illustre très bien le fait que les données sont politiques à double titre pour la question de la configuration d'acteurs et du pouvoir des personnes qui possèdent les données, mais aussi politiques dans la manière dont elles ont de représenter le monde, dans les manières dont elles ont de représenter la société et dans la manière qu'elles ont de représenter la ville. Et donc, quand on associe les deux, en fait, ça peut être notamment sur les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est très crucial. Ici, Alain Desrosières pointe la question des catégorisations qui sont au cœur des conventions et des catégorisations qui sont au cœur des systèmes statistiques. Avec la question de l'intelligence artificielle, on pourra revenir, cette logique de qui peut catégoriser le monde et comment. Est-ce que c'est encore des personnes, des individus? Est-ce que ça fait débat? Est-ce que c'est le biais de dispositifs algorithmiques? Est-ce qu'on a encore des catégorisations ou non? En tout cas, il y a tout un ensemble de questions qui se posent et qui, je pense, sont aussi intéressantes et aussi politiques que la première question de la configuration de qui possède et qui agit avec la donnée. Et donc, tout ça pour introduire cette slide, hein, je pense, quand on parle de questions de données et de pouvoir, il faut bien prendre en compte le caractère doublement politique des données, la question qu'elles déplacent les configurations d'acteurs, et la question aussi qui plutôt cognitive, qui les données sont aussi politiques parce qu'elles permettent de partager une représentation, de s'accorder sur une définition commune du monde, de la société, etc. Et les deux sont évidemment liés. Pourquoi c'est intéressant avec les villes numériques, c'est que on a depuis quelques années en fait une facilité accrue pour tout un ensemble d'acteurs pour produire de la donnée et faire agir à partir de ces données. Donc, j'ai cité les plateformes tout à l'heure qui sont évidemment très importantes, mais c'est aussi des groupes de la société civile qui sont capables aussi de produire des données alternatives à celles classiques produites par les administrations publiques ou les grandes entreprises. Et donc là où on avait un monde où schématiquement seules les grandes puissances administratives étaient capables de produire de la donnée parce que ça coûtait assez cher de les produire, de les maintenir et de les utiliser, maintenant beaucoup plus d'acteurs, que ce soit des acteurs commerciaux ou des acteurs de la société civile, sont en capacité de le faire et du coup de questionner le pouvoir de l'État qui reposait là-dessus. Ce que j'appelle, en reprenant la catégorie de Luc Boltanski, un sociologue français, qui le pouvoir sémantique des institutions. En fait, il y a une grande catégorie, un grand pouvoir de la part des institutions publiques historiquement, qu'on peut retracer la construction de l'État avec son appropriation progressive de sa capacité à établir une réalité, à la stabiliser. Donc c'est ce qu'il appelle le passage du monde à la réalité. Et ce pouvoir sémantique est très important, notamment au travers de la donnée. Et donc ce que mon hypothèse, c'est que ce pouvoir sémantique, qui était un peu en quasi-monopole des acteurs publics, maintenant se voit concurrencé par ce qu'on peut appeler communément le big data, des formes de réalité qui coexistent et qui vont mettre à l'épreuve le pouvoir des institutions publiques. Pour expliciter ça, en fait, je vais vous prendre des exemples, hein, pas rester uniquement dans la théorie, mais prendre un exemple à partir d'un travail que j'ai réalisé justement à Lyon sur l'open data de la métropole de Lyon, pour pointer en évidence en quelle mesure cette mise en circulation de données publiques renforce ou au contraire affaiblit ce pouvoir sémantique de la métropole lyonnaise, sa capacité donc à gouverner au travers de la mise en flux, la mise en circulation de données. Et je vais m'attarder plus particulièrement sur les réutilisations de données, ou en tout cas la difficulté à réutiliser les données ouvertes par la métropole de Lyon. Je vais aller assez vite là-dessus, tout ça pour dire qu'en fait, c'est plus le marché espéré autour de l'open data est plus compliqué à se réaliser pour plusieurs raisons que je vais détailler. Mais il y a des réutilisations de données qui fonctionnent très bien et qui renforcent le pouvoir sémantique de l'institution, c'est-à-dire sa capacité du coup à gouverner, à imposer sa représentation de l'espace et du territoire lyonnais. Et donc à coordonner un ensemble d'acteurs autour de cette représentation. Donc là, c'est typiquement, donc excusez-moi, il y a beaucoup de textes sur ces slides. Je vais aller rapidement là-dessus, mais c'est typiquement le partage donc d'une représentation territoriale et ça fonctionne très bien dans les cas d'open data au travers des applications d'information voyageurs en termes de mobilité. Parce que ces données reposent sur tout un ensemble de caractéristiques techniques, une infrastructure un peu partagée, certains formats et standards de données qui sont assez importants, qui permettent aux acteurs de s'accorder sur ce qu'est un réseau de transport, ce que sont des horaires de transport et de pouvoir les réutiliser facilement, même s'ils n'appartiennent pas aux mêmes mondes sociaux. Et c'est un enjeu assez central de comment se coordonnent des acteurs issus de mondes sociaux assez différents autour de la donnée notamment. Ce que je trouve assez intéressant sur cette question de l'open data, donc là je vous ai mis des citations d'entretien en bas de la slide, c'est que les agents de l'administration lyonnaise pointent bien cet enjeu de diffuser les données et d'être proactifs pour justement imposer ou continuer d'imposer leur représentation du territoire avant que d'autres acteurs puissent produire des données alternatives. Et donc, comme il le dit ici tout en bas, ça serait encore pire par rapport à plutôt que de ne pas diffuser. Et donc, ça marche plutôt bien si on regarde sur le marché lyonnais, hein, sur les applications de voyageurs. Vous voyez qu'avant l'ouverture des données publiques des horaires de transport, il n'y avait qu'une seule application qui était disponible, l'application TCL. Et à partir de 2015, l'ouverture des données de transport, vous avez, ce n'est pas exhaustif, hein, mais en tout cas, plusieurs startups externes qui sont venues s'emparer des données et qui, du coup, participent à la création de nouveaux services et surtout à la diffusion en plus grand nombre de la représentation du réseau de transport par de la métropole lyonnaise. Donc ça, c'est les cas où ça marche plutôt bien. Là, j'ai pris l'exemple des transports. On pourrait prendre d'autres exemples dans l'urbanisme. Par contre, il y a des cas où en fait ça marche moins bien, où vous avez des acteurs externes qui essayent de réutiliser la donnée, mais en fait la donnée ne tient pas vraiment. Ils ont du mal à la réutiliser pour un usage secondaire alternatif à celui pour lequel la donnée avait été produite. Puisqu'en effet, hein, toute donnée est produite pour une finalité, c'est très difficile de l'utiliser pour autre chose. En tout cas, ça demande un travail, une charge qui est conséquente. On pourrait prendre plusieurs exemples. On pourrait y revenir dans la discussion, mais j'ai un exemple qui est très simple, qui est celui des toilettes publiques, où la donnée des toilettes publiques qui est produite par la direction de Lyon pour nettoyer les toilettes, en fait, est difficilement réutilisable à des fins d'information sur la localisation des toilettes, puisque le jeu de données n'est pas exhaustif pour tout un tas de raisons organisationnelles. Et se pose du coup la question pour les pouvoirs publics, est-ce qu'il faut qu'ils mettent à disposition leurs propres données brutes? Ou alors, est-ce qu'il faut qu'ils produisent, retravaillent données, voire ajoutent des informations, c'est-à-dire reproduisent une nouvelle donnée pour des usages externes qui n'ont pas forcément la connaissance initiale. Ça, c'était mon exemple des toilettes, je passe pour pas dépasser mon temps. Mais ce qui m'intéresse de se focaliser aujourd'hui avec vous, c'est plutôt sur ce point, c'est sur quand des acteurs externes vont réutiliser la donnée pour l'intégrer dans leur propre base, mais en changeant un certain nombre de catégorisations et donc en changeant un certain nombre de manières dont ils vont représenter le territoire lyonnais ici dans le cadre de l'infrastructure routière. En effet, vous avez donc cet exemple est assez ancien, il est réactualisé aujourd'hui avec Waze, je reviendrai dessus ensuite, mais vous avez ce fameux bouchon de Fourvière qui est bien connu des vacanciers qui traversent Lyon et pour lesquels l'agglomération lyonnaise souhaiterait encourager plutôt l'utilisation du périphérique et du est et à son grand dam, les GPS contribueraient selon elle à alimenter le bouchon de Fourvière puisqu'ils encourageraient le passage par le centre de l'agglomération plutôt que le contournement. Et derrière tout ça, en fait, ce qui explique cela, c'est une histoire d'algorithme, mais surtout une histoire de hiérarchisation des voies, c'est-à-dire de classement des données dans la base de données sur laquelle repose l'algorithme des GPS, et hiérarchisation des voies qui est assez alternative, qui est alternative à la hiérarchie classique des voies utilisées par l'administration lyonnaise pour réguler la circulation routière. Et donc là, les fabricants de GPS intègrent en partie hein, les données du Grand Lyon, mais par contre, il est recompose, réintègre dans leur base de données avec donc ces catégories alternatives qui vont contribuer à faire prioriser le bouchon de le tunnel de Fourvière pardon, plutôt que le contournement de l'agglomération. Et donc ça crée des conséquences hein, en termes de pouvoir de recomposition de pouvoir puisque comme le dit un gestionnaire du réseau routier lyonnais, les gens suivent leur GPS, peu importe ce qu'on indique sur nos panneaux de signalisation, nos moyens d'action n'agissent plus. Donc ils reconnaissent bien qu'ils ont une perte de pouvoir liée à ça. L'exemple est encore plus prégnant avec le cas de Waze. Donc là, je vous ai mis une photo de Waze aux États-Unis, à Los Angeles, puisqu'ils ont fait un certain nombre d'études. Vous avez certainement entendu parler de cette problématique dans les médias, où Waze contribuerait à détourner le trafic dans des quartiers résidentiels, provoquer des bouchons, ce qui provoque un ensemble de nuisances. Ce qui pourrait provoquer, là je vous le mets, c'est un peu à titre anecdotique parce que c'est très difficile à estimer, mais en tout cas, sur ces offres d'annonces immobilières à Los Angeles, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, dans la description, ils indiquent que ces maisons sont situées dans des cul-de-sac, ce qu'ils ont renommé des No-Waze Street, donc des rues où ils ne peuvent pas avoir de détours de trafic. Et surtout, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que ça provoque des tensions entre Waze et les acteurs publics, puisque derrière ces choix algorithmiques et ces choix de catégorisation du réseau routier, en fait, il y a deux conceptions aussi de comment on régule la circulation routière. Une première qui est plutôt centrée sur optimiser le temps de l'individu, de l'automobiliste dans son déplacement, et une seconde qui est plutôt de dire qu'il faut prioriser la situation collective et encourager plutôt les flux sur les voiries principales. Ce qui m'intéresse avec ce cas de Waze et plus généralement de Google et autour de l'open data, c'est que ces entreprises en fait se sont constituées quasiment intégralement, ont constitué leurs données indépendamment des pouvoirs publics. Et elles utilisent assez peu les données publiques qui sont publiées par les collectivités locales. Et pourtant, en fait, souvent, quand une des grosses craintes autour de l'open data, en tout cas chez les producteurs de données publiques, c'est de se dire, ouais, mais on va publier nos données, mais ça va juste renforcer Google, qui va être les seuls à pouvoir les réutiliser. Ça va renforcer leur capacité à agréger prédateurs autour de la donnée. Donc là, vous voyez hein, cette citation d'universitaire lyonnais, mais on a ce discours qui est assez commun. Et en fait, quand on regarde dans le détail, Google et Waze n'utilisent que très marginalement les données publiées en open data. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, les données publiées en open data sont construites de manière très différente selon les territoires. Elles ont des formats, des catégorisations qui n'ont rien à voir d'une commune à l'autre en France, mais encore plus quand on est à l'international. Là, vous avez, et ça heurte en fait l'objectif de développement de ces plateformes, qui est un objectif d'hypercroissance, hein, comme on voit dans la deuxième citation, cette personne qui dit mon enjeu c'est scale, hein, donc c'est vraiment de passer à l'échelle et de se dire que, donc c'est assez intéressant puisque c'est le responsable des partenariats entre Waze et les collectivités françaises, et qui déclare en entretien que pour lui, en fait, passer une demi-journée avec la ville de Marseille pour discuter autour de ce partenariat, c'est trop. Même si c'est Marseille, deuxième ville française. Et donc, du coup, ça montre bien un peu cette différence de culture et qui est, je pense, aussi très importante pour prendre en considération les enjeux de régulation et de dialogue possible entre plateformes et collectivités. C'est que quand ils vont voir les élus avec ce discours-là, en fait, des élus locaux ne peuvent pas comprendre. D'habitude, les acteurs privés qui viennent les solliciter sont plutôt dans une logique d'accommodement avec eux et pas du tout dans une logique de dire en fait passer une demi-journée avec vous à Marseille, c'est beaucoup trop. Et donc cette hétérogénéité des formats de données est très rédhibitoire pour intégrer les données en open data. En outre, il y a un autre enjeu, et là ça fait directement aussi écho à la thématique intelligence artificielle et donc algorithmique, c'est que pour utiliser des données, pour les intégrer dans un dispositif algorithmique, en fait, il y a une connaissance du territoire qui est indispensable, puisque sinon, vous allez certainement avoir des résultats qui seront assez peu probants. Donc là, c'est quelqu'un de chez Google qui me disait, en fait, nous, intégrer les données d'horaires de transport comme ça en temps réel, c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, on n'a pas la connaissance locale, quoi. Et les réseaux de transport sont quand même assez hétérogènes. Et quand on le fait, souvent, ça marche pas bien parce que typiquement, on ne sait pas si on a du mal à savoir si l'arrêt de bus est de tel ou tel côté de la rue. En particulier, si vous avez plusieurs opérateurs de transport qui vont avoir des manières différentes je sais pas, de nommer la gare Pardieu, par exemple. Et donc, comment vous faites pour faire la jonction algorithmique pour vos résultats, si vous savez pas très bien que Gare Pardieu, il y a deux sorties et que c'est pas la même chose. Donc c'est assez compliqué si vous n'avez pas une espèce d'expertise territoriale. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place, plutôt que de l'open data, tout un ensemble de partenariats qui visent à industrialiser l'usage des données publiques et à faire reposer l'intégration de ces données sur les acteurs publics qui ont cette connaissance du territoire et de leurs données. Et partenariat donc qui se voit qui impose donc aux acteurs publics des contrats et des formats standardisés à l'échelle internationale, notamment des contrats en anglais, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les collectivités françaises. Aussi des interfaces standardisées pour faciliter l'intégration de données. Donc là, ici, c'est le cas de Google, hein, qui, pour l'intégration des données d'horaires de transport, met à disposition des collectivités qui le souhaitent une interface pour charger automatiquement leurs données, corriger les erreurs qu'il pourrait y avoir dans leur jeu de données ou autre. Et donc, faire tout ce travail un peu de nettoyage de la donnée, hein, qui est quand même très conséquent quand vous réutilisez des données publiques. Donc là, c'est l'exemple de l'interface. Et du coup, en fait, on se rend compte que se pose plus généralement aussi une question pour les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils doivent, du coup, consacrer en investissement, ne serait-ce qu'un investissement en temps et en ressources humaines, pour faire ces partenariats et faire l'intégration de leurs données dans les services privés de ces grandes plateformes? Et le rapport de force, en fait, semble plutôt défavorable aux collectivités. Notamment, donc là vous le voyez sur les citations, la grande question que s'est posée à Lyon autour de l'intégration des données de transport en commun dans Google Maps, est-ce qu'on peut ne pas être sur Google Maps? En termes de visibilité de l'offre de transport à l'international, en termes de services aux usagers, etc. De même pour les partenariats avec Waze, est-ce qu'on peut ne pas signer le partenariat? Est-ce que en même temps signer un partenariat, c'est pas aussi une manière pour nous d'encourager encore plus notre représentation du territoire, qu'elle soit utilisée par le maximum d'acteurs et donc du coup notre pouvoir sémantique. Et donc c'est pour ça en fait que ce partenariat marche si bien. Pour moi, pour les collectivités, le partenariat, donc on voit bien pourquoi c'est bénéfique pour Waze notamment, pour les collectivités, c'est que ça leur permet en fait une forme de conserver la maîtrise de l'information qu'ils vont fournir aux usagers par notre canal. Typiquement pour Waze, quand vous avez 30% de vos automobilistes locaux qui utilisent l'application, en fait, si vous voulez les toucher, si vous voulez transmettre de l'information et conserver une forme de maîtrise, vous êtes un peu contraint d'utiliser cette application, qui est considérée, je ne sais pas si vous voyez, sur la capture d'écran à gauche, au même titre que d'autres médias locaux. Ici, c'est à Nancy, hein, mais vous avez le petit logo Waze qui est aligné avec le partenariat de transmission d'informations de circulation à l'Est républicain ou à France Bleu. Et donc, on a une forme de redéploiement de l'action des collectivités par les données, qui se concentrent sur la production de données de qualité, qui mettent en circulation pour que des acteurs privés viennent développer des services à partir de leur propre représentation du territoire. Et pour moi, c'est une recomposition en fait de leur mode d'action qui est moins centré sur la création du service en lui-même, mais qui forme de conserver la maîtrise du pouvoir en partie, en tout cas de leur pouvoir sémantique au travers de cette circulation. Et je m'arrête pour pas dépasser plus longtemps mon temps de parole, mais donc présentation rapide qui était pour vous dire que un grand enjeu autour du pouvoir sémantique des institutions publiques et illustré dans le cadre de l'Open Data, qui est assez différent hein, selon les secteurs d'action publique, selon les territoires, selon les configurations d'acteurs qui sont en place. Hein. Moi, j'ai beaucoup parlé ici de la mobilité. Dans les cas, je ne sais pas moi, de la gestion des réseaux d'eau, c'est très différent puisque les acteurs en place ne sont pas du tout les mêmes, sont beaucoup plus localisés et les rapports de pouvoir ne se posent pas de la même question autour de la circulation de données entre acteurs publics et privés. Je m'arrête ici pour échanger avec vous là-dessus. Allez, juste un instant d'autopromo. Vous avez cité donc en introduction, je vous remercie, hein, le livre qu'on avait publié avec Patrick Le Gallès il y a 1 an et demi, Gouverner la vie numérique. Et juste pour vous indiquer que du coup, je vous ai raconté plein d'autres choses. C'est aussi présent dans un livre là, qui paraît le 14 janvier aux Presses universitaires de Grenoble, qui s'appelle donc Quand la donnée arrive en ville sur ces questions de recomposition de gouvernance urbaine autour de la data. Je vous remercie.
Merci beaucoup.